Une baisse des taux lente de la Réserve fédérale des États-Unis est préférable pour vos actions en bourse. Chers amis, dans cette vidéo, je vous parle tout d'abord du rebond technique des taux d'intérêt. Ce rebond des taux d'intérêt, alors que le S&P 500 fait un nouveau record historique, beaucoup s'inquiètent, voient les perspectives de politique monétaire de la Fed réduites à moins de baisse de taux, une réduction du Fed cut pace, parce que l'économie américaine a produit de solides statistiques sur le marché du travail, et s'inquiète donc que la hausse des actions soit menacée par ce rebond des taux d'intérêt. Et oui, ils ont en tête que le bear market de 2022 fut dû à la remontée des taux d'intérêt. Et chers amis, dans cette vidéo, je vous montre que non. Si vous avez le choix entre un scénario de forte baisse de taux d'intérêt rapide ces prochains mois, ou d'une baisse des taux d'intérêt lente et sous contrôle, pour vos actions, faites le choix numéro 2. Première partie de la vidéo. Le rebond des taux d'intérêt du marché, peu importe les fondamentaux, il était d'origine technique. Oui, les fondamentaux l'ont autorisé, mais techniquement parlant, il était parfaitement envisageable. L'analyse technique a tout vu venir. C'est un rebond technique à court terme qui corrige une situation de survente. Vous allez voir, il y avait des divergences foncières. Deuxième partie, ce sera le cœur de la vidéo. Oui, une baisse des taux d'intérêt lente des banques centrales est une bonne chose pour vos actions en bourse. En lien avec un certain nombre de fondamentaux, je vous explique tout. Troisième partie, la désinflation est-elle menacée? Rebond du prix du pétrole, rebond court terme du prix des matières premières agricoles, inflation sous-jacente résiliente, certains s'inquiètent. Moi, je vais vous montrer que non, rapidement, que cette désinflation n'est pas menacée. J'aurai l'occasion de revenir davantage en détail dans la prochaine édition du Top Gad. Chine, marché action chinois, en remontada depuis quelques semaines. Reality check cette semaine avec la mise à jour des chiffres de la consommation des ménages en Chine. C'est l'objectif. Le gouvernement chinois cherche à relancer la croissance en Chine, notamment la consommation des ménages. Donc, alors ça prend, les mesures vont prendre du temps à agir, mais c'est un premier reality check. Il y a des stats importantes. Et enfin, cinquième partie, analyse technique du S&P 500. C'est parti. Alors chers amis, je suis ravi de retrouver une nouvelle édition du Top Gad. Donc oui, effectivement, c'est l'objectif de cette vidéo. Beaucoup, certains investisseurs m'ont appelé en me disant « Vincent, bon, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt du marché rebondissent depuis début du mois d'octobre. » Pour la Réserve fédérale des États-Unis, qui a pivoté en septembre, qui a baissé son taux directeur de 50 points de base, le marché, vous savez que d'ici la fin de l'année, il reste deux décisions de politique monétaire, celle du 7 novembre et celle de fin décembre. Et pour le 7 novembre, le marché anticipait encore 50 points de base de baisse de taux. Or, depuis, ces perspectives ont changé. Et désormais, la probabilité qu'il y ait no Fed cut en novembre, est passée de 0 à 15%. Bon, entre-temps, le S&P 500 a fait un nouveau record historique. Vous voyez que le marché action ne s'en stresse pas. Mais, effectivement, certains investisseurs pensent que ça est une mauvaise nouvelle. Moins de baisse de taux, c'est pas possible, on va revivre le marché baissier de 2022, etc., etc. Moi, je vais vous montrer que non. Il est préférable d'avoir des baisses de taux très lentes, sous contrôle, parce que la croissance économique reste vigoureuse, plutôt qu'avoir une cascade de baisses de taux de type jumbo Fed cut, le 50 points de base d'un coup, parce que une cascade de baisses de taux, une baisse très rapide des taux d'intérêt, ne peut que sanctionner, en mode cocher la case, une récession. Ne croyez pas que vos actions vont monter si les taux d'intérêt s'effondrent parce qu'il y a une récession. La tendance des actions en bourse, c'est d'abord les perspectives de croissance économique, ce sont les perspectives de croissance de profit des entreprises. Je vais vous montrer des super graphiques. Vous allez voir, la corrélation est nette entre la tendance du S&P 500 et les perspectives de bénéfices. Allez, c'est parti les amis, on passe directement au vif du sujet. Fed, Réserve fédérale des États-Unis, une baisse des taux lentes. Fed, une baisse des taux lentes est préférable pour vos actions en bourse. Le plan s'affiche sous vos yeux, je vous l'ai déjà décrit en première partie de vidéo. Voici les différentes parties, 5 parties, et on attaque la première partie. Taux d'intérêt, un rebond court terme que l'analyse technique voyait venir avec des divergences haussières. Oui, alors bien sûr, je défends ma paroisse parce que je suis avant tout un analyste chartiste, mais pour vous dire qu'au fond, il ne manquait plus qu'une excuse fondamentale pour déclencher le rebond des taux d'intérêt du marché. Alors déjà, de quoi parlons-nous? Nous parlons de ça. Vous avez ici sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du taux obligataire américain à 10 ans. Et donc effectivement, il y a eu donc ici, depuis mi-septembre, un fort rebond. Alors un fort rebond dans le cadre d'un trend baissier depuis le mois d'octobre 2023. Si vous prenez le taux obligataire américain à 2 ans, effectivement, il y a eu un fort rebond. Alors, fort rebond ici qui a été impulsé par la mise à jour des statistiques sur le marché du travail aux États-Unis, notamment donc le rapport NFP du début du mois d'octobre, qui est un ensemble de statistiques sur le marché du travail US, en particulier le taux de chômage. Et donc ce taux de chômage a reculé à 4,10%. C'est une bonne nouvelle. J'y viens. Mais tout d'abord, peu importe les fondamentaux, le rebond des taux d'intérêt du marché allait avoir lieu. Son amplitude était méconnue, mais il allait avoir lieu pour des considérations techniques. Par exemple, prenez le rendement obligataire américain à 2 ans, il était revenu sur support et il était beaucoup trop bas. Vous savez, le rendement obligataire américain à 2 ans, c'est celui qui colle le plus au taux d'intérêt des fonds fédéraux. Ils sont encore à 5. Le machin était tombé à 3,5. Bon, donc c'est un réalignement. Alors, d'un point de vue technique, double support. Vous aviez un superbe support ici sur le taux obligataire américain à 2 ans. Sur le taux américain à 2 ans, une magnifique divergence haussière primomatum, visible ici sur l'horizon de temps journalier. En fait, il y avait une double... Les divergences étaient partout. Vous aviez une divergence haussière primomatum sur le rendement obligataire américain à 10 ans, une divergence haussière primomatum sur le 10 ans américain, une divergence haussière primomatum sur le 2 ans américain. Ce sont des divergences qui sont identifiées ici sur l'horizon de temps journalier, qui sont donc de nature court terme. Donc c'est un rebond technique de court terme. Les divs étaient là et il fallait une news pour le déclencher. Par contre, si nous prenons le temps long, le temps plus long, je vais prendre l'horizon de temps hebdomadaire. L'horizon de temps hebdomadaire. Alors ici d'ailleurs, pour pas que ça s'affiche, voilà, vous faites comme ça. Et donc nous sommes toujours dans une structure des taux d'intérêt qui se renverse. Et au stade actuel, nous n'avons pas de signaux de relance de la tendance haussière de fond des taux obligataires. Moi j'utilise par exemple ici les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires, où tant que ces taux obligataires se maintiennent donc sous le nuage, ici sous le tumeau, eh bien ce n'est qu'un rebond technique, et ici c'est une zone où les taux pourraient à nouveau se renverser et reprendre la direction baissière ces prochains mois. Si vous prenez le taux obligataire américain à 2 ans, de la même façon, vous lui appliquez les enseignements du système Ishimoku. Pour l'instant, donc c'est un rebond technique, mais effectivement, en données hebdomadaires, eh bien, alors, bien sûr qu'on ne refait pas exactement la même structure de prix que le passé, mais le fait d'avoir basculé cet été sous le cumo ici en données hebdomadaires montre que, pour le moment, c'est un rebond technique court terme dans le cadre d'un mouvement qui n'est plus un mouvement aussi. Peut-être qu'on est dans une phase latérale, mais en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que pour le moment, nous avons simplement un rebond technique court terme, ici, des taux d'intérêt que l'analyse technique voyait venir. Il y avait des divergences, et désormais, donc, ces divergences se sont pleinement exprimées. L'indicateur technique revient d'ailleurs en zone de surachat en données journalières. Nous approchons du moment où ces taux d'intérêt du marché vont cesser de rebondir. Ça, c'est donc la première partie. Maintenant, Fed, une baisse des taux lente ces prochains mois est préférable pour vos actions en bourse. Soyez-en convaincus, il est préférable. Il y a deux types de scénarios. Je reprends ici les taux d'intérêt du marché. Si vous aviez eu ici, si ce seuil avait cédé, vous savez, toute cette baisse ici de la seconde partie de l'été, rappelez-vous, des taux d'intérêt étaient en lien avec l'augmentation de la probabilité d'une récession. Pourquoi ? Parce que cet été, vous avez eu, au printemps et cet été, une augmentation significative du taux de chômage aux États-Unis, qui a culminé à 4,3% de la population active. Or, depuis deux mois, ce taux de chômage diminue. Vous savez que les statistiques du marché du travail sont le baromètre ultime de l'état de santé de la croissance économique américaine. Car lorsque les entreprises voient venir ou sont en récession et qu'elles n'ont plus le choix, parce que la croissance économique n'est plus au rendez-vous, moins de chiffre d'affaires, moins de profits, il faut pour préserver les marges, il y a une réduction de la masse salariale. Donc c'est l'ultime baromètre. Alors, une baisse des taux qui aurait été trop rapide, et bien sûr que les anticipations ont changé, mais une baisse des taux qui aurait été trop rapide et qui se serait traduite dès la rentrée par la cassure de ce seuil n'aurait signifié qu'une chose, non pas que la désinflation accélérait, n'aurait signifié qu'une forte augmentation de la probabilité d'une récession. Il est impossible que le marché action développe davantage sa tendance haussière si la probabilité d'une récession augmente. D'ailleurs, le S&P 500 a bien fait, la semaine dernière un nouveau record historique. J'y viens pour l'analyse technique, mais il a fait la semaine dernière un nouveau record historique. Alors, donc oui, la Réserve fédérale a pivoté en septembre dernier en baissant son taux directeur de 50 points de base. Alors un jumbo Fed cut qui a surpris le marché. Mais dites-vous bien d'ailleurs que Jérôme Powell avait indiqué lors de la conférence de presse que ce rythme de 50 points de base n'était absolument pas devenu la norme. Et finalement, les statistiques lui donnent raison. D'ailleurs, la Fed a toujours dit qu'elle ne baisserait pas davantage ses taux, enfin, que le 7 novembre prochain, il n'y aurait que 25 points de base de baisse de taux. Alors, la publication d'un solide rapport NFP sur le marché, la publication d'un solide rapport sur le marché du travail US, rapport NFP, a depuis bouleversé les anticipations de politique monétaire de la Fed. La probabilité d'un no Fed cut en novembre est passée de 0 à 15%. Vous voyez ici, vous avez donc ici le taux d'intérêt des fonds fédéraux est actuellement à 5%. Eh bien, il y a encore deux semaines, la probabilité que le 7 novembre il tombe à 4,5%, c'était 70%. Maintenant, c'est 0. La probabilité, il y a deux semaines, que le 7 novembre les taux ne baissent pas, c'était 0. Maintenant, c'est 13%. Donc, et au final, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y aura une baisse de taux, sauf surprise. De 25 points de base de plus le 7 novembre prochain. Certains investisseurs s'inquiètent donc de cette réduction de ce qu'on appelle le Fed Cut Pass. Le Fed Cut Pass, c'est-à-dire le rythme à venir de réduction des taux d'intérêt. Mais cette inquiétude n'est pas justifiée. Si cette lente réduction des taux d'intérêt vient sanctionner, pas dans le sens corrigé, dans le sens cocher la case, dans le sens affirmer que l'économie américaine est résiliente avec un bon niveau de croissance, des taux d'intérêt qui restent élevés parce que la croissance économique reste élevée et que le taux de chômage se maintient à un niveau bas, c'est positif parce qu'une croissance économique qui reste positive et qui se maintient autour des 2% aux États-Unis permet d'assurer la croissance des profits. Laissez-moi illustrer ce propos. Donc tout d'abord, effectivement, il y a eu des bonnes nouvelles macroéconomiques. Vous avez sous les yeux le taux de chômage U3 aux États-Unis qui a été réduit de 4,3% de la population active à 4,1%. Ici, vous avez le taux de chômage U6 aux États-Unis qui a été réduit de 7,9% de la population active à 7,7% de la population active. Le taux de chômage U3, prenant en compte notamment ceux qui ne cherchent plus d'emploi, tout le travail précaire, etc. C'est le vrai taux de chômage. Bon. Et surtout, il y a eu 254 000 créations nettes d'emplois. Le marché s'était stressé ici, puisque le seuil d'alerte, c'est 100 000 créations de dettes d'emploi par mois, et que le marché s'en était, la statistique s'en était approchée à la fin de l'été. Mais au final, tout ça est une bonne chose. Alors, ces statistiques ici ont permis notamment de réduire la probabilité d'une récession. La plupart des banques américaines l'ont ramené à 15%, c'est la moyenne qu'on observe sur le long terme. Et vous avez notamment, il y avait un stress par rapport à l'activation de la règle de SAM, qui consiste à dire que la récession commence lorsque la moyenne mobile du taux de chômage, la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage U3 augmente de plus de 0,50, la maîtrise était montée à 0,57 et elle retombe à 0,50. Donc on désactive presque la règle de SAM. Et au final, regardez ce graphique. Ici, vous avez un graphique qui expose la tendance en bleu des anticipations de profit du S&P 500 et en vert l'indice S&P 500. Il y a une corrélation positive forte, en tout cas, il y a une corrélation positive qui tend vers 1 entre les anticipations de profit des entreprises américaines et la tendance du S&P 500. Et vous pouvez observer donc que les anticipations de profit pour 2025 sont très élevées et ces anticipations de profit ne peuvent être vérifiées dans les faits que si la croissance économique américaine se maintient. Et je trouve ici ce graphique intéressant. Vous avez ici le taux de croissance du produit intérieur brut, donc trimestre après trimestre, pour en bleu les États-Unis et en gris la zone euro. On voit parfaitement à quel point le différentiel de croissance économique ici entre la zone euro en gris et les États-Unis en bleu reste élevé. Et pour le moment, les anticipations de croissance du PIB américain trimestre par trimestre se maintiennent entre 2 et 3%. Donc, les taux d'intérêt, pour le moment, dans leur rebond, alors c'est un rebond technique qui a une certaine amplitude, mais qui finalement permet ici donc de se débarrasser de ces divergences qui sont actives et maintenant qu'on a épuré. Donc à la fois il y avait ce côté technique et c'est surtout et c'est, ce rebond des taux d'intérêt vient simplement nous dire que tout ce stress qu'on a eu ici à la fin de l'été sur l'explosion du chômage aux États-Unis en fait n'avait pas lieu d'être. Donc c'est un retour à la case départ. Maintenant, oui, il faut absolument pas que les taux d'intérêt reviennent à ce niveau-là parce que si les taux d'intérêt reviennent ici, c'est qu'en fait il y a un problème sur la désinflation. Alors ça c'est un autre sujet, je vais le traiter dans la vidéo. Mais maintenant voilà, ce rebond là des taux d'intérêt ne s'est pas traduit par une chute du S&P 500 qui, je ne parle pas de ce début de semaine, hein, je parle de la semaine dernière, a inscrit un nouveau record historique parce que ce rebond des taux d'intérêt est venu simplement mettre un terme à ce débat de fin d'été sur l'augmentation de la probabilité d'une récession aux États-Unis. Et donc, nous en sommes là pour le moment. Alors bien sûr, maintenant, il y a aussi la dimension désinflation. Et par rapport à cette dimension croissance économique, cette semaine, vous savez que l'essentiel de la croissance économique américaine est basé sur la consommation des ménages. C'est environ 70% du PIB américain. Cette semaine, vous avez jeudi 17, la mise à jour de la statistique la plus importante pour mesurer la consommation des ménages aux États-Unis. Ce sont les ventes au détail. Statistique mise à jour jeudi 17 octobre. Et tant que les ventes au détail conservent un trend positif, l'économie américaine n'est pas en récession. Vous savez, finalement, vous avez ici les deux grands baromètres. Le taux de croissance, mois après mois, en rythme annuel, des ventes au détail aux États-Unis, qui sont le baromètre de la consommation des ménages représentant 70% du PIB, et le taux de chômage U6 avec le taux de chômage U3. Et donc, tant que le taux de chômage U3 à U6 reste sous contrôle et que la croissance de la consommation américaine permet de maintenir un niveau de croissance économique aux États-Unis qui est d'ailleurs nettement supérieur à celui de la zone euro, eh bien, dans ce cas, les perspectives de bénéfices restent bonnes et permettent d'exprimer la corrélation positive avec la tendance du S&P 500. Donc, pour le moment, en tout cas, le rebond des taux d'intérêt du marché et la réduction du cycle envisagé des taux d'intérêt de la Fed correspondent au fait que c'est la probabilité d'une récession qui a diminué et non pas un risque de rebond de l'inflation. Les choses vont peut-être changer. Et pour l'instant, voilà ce que nous pouvons dire. Alors justement, par rapport à cette inflation, vous avez eu donc la semaine dernière la mise à jour de l'inflation CPI. Alors vous savez que la Réserve fédérale des États-Unis, pour évaluer le régime des prix aux États-Unis, regarde le CPI, le PPI et le PCE. Elle regarde surtout le PCE. Et effectivement, ce que nous observons, c'est qu'il y a une résilience de l'inflation sous-jacente. Alors l'inflation nominale est sur son plus bas, mais les indicateurs temps réel d'inflation ont tendance à rebondir. Et voilà. Le rebond du prix du pétrole est-il un risque de rebond de l'inflation nominale? J'ai traité ce sujet dans l'émission Top Gun de Fast and Forex de la semaine dernière. Je vous ai expliqué que tant que le prix du pétrole se maintient sous les $80, il ne retrouvera pas de contribution positive au calcul de l'inflation nominale. Alors, pour se projeter sur la désinflation est-elle menacée? C'est assez complexe parce que il y a à la fois l'inflation nominale, l'inflation sous-jacente, l'inflation sous-jacente excluant le prix de l'énergie et le prix de l'alimentaire, et vous avez donc le PCE, le CPI et chacune des composantes a un poids différent. L'inflation nominale va-t-elle rebondir? Alors effectivement, un investisseur me soulignait, regarde Vincent. Regarde, attention, le trueflation remonte verticalement. Que se passe-t-il? C'est la deuxième vague d'inflation, c'est fini, il n'y aura pas de baisse de taux des banques centrales. Pas de panique. Tout d'abord, ce rebond de l'inflation nominale doit être mis dans son contexte. Ici, vous avez la variation sur 6 mois, ça peut faire un peu peur. Je vous mets l'historique complet. Vous voyez que la désinflation a commencé à 11%, on est quand même encore un peu bas. Donc, tout de suite, le recul du graphique de long terme, et encore même moyen terme ici, il y a 2 ans d'historique, ça reste sous contrôle. D'autre part, regardez quelle était la valeur de Trueflation avant la crise sanitaire. La valeur de Trueflation dans le monde d'avant, c'était 2,25. Donc, pour le moment, le rebond de Trueflation n'est pas un sujet tant qu'on se maintient autour de 2,5. Attention, il ne faudrait pas dépasser 2,5. Le rebond de Trueflation n'est pas un sujet tant que l'inflation alimentaire reste dans son range entre 0 et 3. Prenez la ligne ici en bleu foncé. Pour le moment, l'inflation alimentaire semble rejeter à nouveau dans le haut du range. Ça va être en grande partie lié à l'évolution du prix des matières premières agricoles. Bon, certaines souffrent là pour des raisons climatiques. Le prix a augmenté, mais pour le moment, on reste dans le range. L'inflation du pétrole a une contribution encore négative, je vous l'expliquais, tant qu'on se maintient sous 80$. Maintenant, le vrai sujet pour la Banque centrale, parce que l'inflation nominale, il y a ces éléments jugés justement volatiles, de l'inflation alimentaire et de l'inflation de l'énergie, qui est compris dans la catégorie transport pour le CPI. Mais la Banque centrale regarde l'inflation sous-jacente, et en grande partie, l'inflation des services, essentiellement l'immobilier, essentiellement les assurances, sans oublier le poids des frais de santé dans le PCE. Et pour le moment, la tendance reste baissière pour l'inflation immobilière, qui pèse quand même 33% du CPI et 18% du CPE, du PCE, et l'inflation des frais de santé reste baissière, reste effectivement l'incertitude des autres services, et notamment des assurances, et notamment des assurances automobiles, où c'est du grand n'importe quoi, et malheureusement, ça pèse, c'est encore à 2 chiffres, et ça pèse 8% du PCE. Donc, lorsque vous reprenez Trueflation et que vous regardez la santé, eh bien, la tendance est à nouveau à la baisse depuis quelques semaines. Ça, c'est plutôt rassurant pour le PCE. Lorsque vous regardez l'inflation immobilière, elle est à 1%, c'est-à-dire qu'elle est à 1%, alors que dans l'inflation officielle, elle est à 5%, et je vous ai expliqué à plusieurs reprises qu'il faut énormément de temps pour que l'inflation immobilière temps réel vienne être intégrée au chiffre officiel. Ici, vous avez l'inflation immobilière officielle qui est à 5. Là, vous avez l'inflation immobilière temps réel qui est à 3,36 selon le Zillow. Et pour les tout nouveaux loyers, moins 1. Donc ça, les perspectives, il y a encore de la marge à la baisse dans l'inflation immobilière. Ne serait-ce parce que nous connaissons les données temps réel et je vous remonte le poids, notamment dans le CPI et aussi dans le PCE. Donc là, il y a du bon à aller chercher. En fait, le vrai sujet sont l'ensemble des autres services, et en particulier les assurances, où là, pour l'instant, les assureurs se gavent. Qu'est-ce que je vous dis ? Ils se gavent. Ils ne semblent pas avoir l'intention de réduire cette folle croissance de leur marge. Alors, ils ont des vrais coûts derrière, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Donc, le rebond des taux d'intérêt est-il inquiétant ? C'est quand même le sujet de cette vidéo. Il ne l'est pas tant qu'il vient en fait acter le fait que la récession diminue aux États-Unis. La probabilité d'une récession diminue aux États-Unis. Il deviendrait inquiétant si les taux d'intérêt devaient vraiment remonter dans cette zone-là, redépasser la moyenne mobile à 200 jours, pour une raison liée en fait à une reprise de l'inflation. Alors là, bon, effectivement, ce serait un vrai sujet. Là, ça finirait par produire un effet négatif sur le S&P 500. Et là, les choses deviendraient plus complexes. Indice boursier chinois, Time to Reality Check avec les statistiques du vendredi 18 octobre. Alors effectivement, le marché action chinois qui a fortement rebondi. Donc je vais vous en redonner un mot sur le plan technique. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Marché action chinois qui a fortement rebondi de manière complètement incroyable. Que vous preniez Shanghai, que vous preniez Hong Kong, que vous preniez Shenzhen. Le soufflet retombe, c'est logique. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est technique. Sur achat, regardez par exemple la valeur qu'a atteint le RSI à la bourse de Shenzhen 91. Et il n'avait pas atteint ce niveau-là depuis ici la reprise post-crise sanitaire. C'est la même chose sur Shanghai. D'autre part, parce que ce mouvement était complètement fou, et qu'il a été en grande partie permis par le fait que les autorités chinoises ont autorisé les entreprises du secteur de l'immobilier à racheter leurs propres actions. Maintenant, time to reality check, c'est-à-dire que toutes les mesures de relance chinoises qui ont été annoncées ont pour objectif de relancer la consommation des ménages. Et donc, ce vendredi, alors ça va prendre du temps. Les mesures, là, elles ont été annoncées. Certaines ne sont même pas implémentées. Dites-vous bien une chose. Certaines n'ont même pas été... les annonces sont là, mais déjà, ça va prendre des semaines à les mettre en place. Et ensuite, des semaines à ce que cela produise un effet sur l'économie chinoise. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse pour le marché action chinois? D'une part, moi, bien sûr que j'estime que les replis s'achètent. Donc, toujours pareil, sur support, on achète. Mais l'enjeu, c'est... pour les autorités chinoises, de relancer la consommation des ménages. Vous avez une statistique majeure qui illustre cela, ce sont les ventes au détail. D'ailleurs, c'est la même chose pour les États-Unis. Cette semaine, vous avez la mise à jour des ventes au détail aux États-Unis, c'est vendredi, et vous avez la mise à jour des ventes au détail en Chine, c'est samedi. Je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, à vérifier. Ce sera le 18 octobre en tout cas. Et donc, voilà, regardez ce qu'était avant la consommation chinoise. C'était de manière linéaire 10% de croissance chaque mois en rythme annuel de la consommation des ménages. C'est ça qui permettait à la croissance économique chinoise d'être incroyable. Depuis la crise sanitaire, la Chine n'arrive pas à retrouver cette linéarité dans la hausse à un niveau élevé. Et récemment, ça tendait même vers zéro. Donc, nous verrons bien. Le consensus semble croire que le consommateur chinois aurait déjà commencé à réaccélérer, nous verrons bien, pour l'instant ça stagne à 2, ce chiffre est mis à jour cette semaine. Et cela aura un impact déterminant, notamment sur le marché actions chinois. Moi je pense que ce marché actions chinois maintenant, après l'euphorie ici passée, va maintenant proposer une hausse plus construite et réaliser des pullbacks. Si vous prenez Shenzhen, ça va être revenir sur cette zone de support latéral, c'est celle-ci. Ici on attend une stabilisation et une reprise. De la même façon, si vous prenez Shanghai, c'est toute cette zone support, éventuellement ce gap ici hebdomadaire, où là le marché pourrait revenir fermer le gap, et ensuite reprendre sa tendance haussière. Vous pouvez croiser ça avec les enseignements du système Ishimoku, où si on revenait fermer le gap, on pourrait reprendre appui sur le Kumo, et ensuite repartir. Donc désormais, il va falloir laisser la place à un mouvement plus construit, moins euphorique, après cette première euphorie ici, qui est liée au fait que les annonces des autorités chinoises n'étaient pas du tout anticipées. Dernière partie de la vidéo, je termine donc comme chaque semaine par le point technique sur l'indice S&P 500. Point technique sur l'indice S&P 500 en prenant tous les horizons de temps. Le marché a donc enregistré la semaine dernière un nouveau record historique. Alors, RAS sur l'horizon de temps mensuel, vous savez que moi j'anticipe la fin du bull market lorsque j'aurai mes premières divergences baissières en données mensuelles. Je pense que c'est quelque chose que nous aurons en 2026. Donc pour le moment, bon, de toute façon, il n'y a pas eu de nouvelle clôture mensuelle depuis la semaine dernière, donc, mais tout de même. Alors, la clôture hebdomadaire, nous sommes toujours dans ce que j'estime être ici, donc la vague 5, qui reste donc active tant que le marché se maintient au-dessus du support ici des 5670 points. Pour le moment, le mouvement donc se poursuit et donc une vague 5, le principe d'une vague 5, c'est qu'elle se décompose elle-même en 5 temps, donc une première vague, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. C'est le principe des vagues impulsives et nous sommes là toujours dans donc cette troisième vague qui se sous-décompose elle-même en 5 temps. Donc la troisième de la grande 5 elle-même décomposée en 5 temps et donc la tendance reste haussière tant qu'on se maintient au-dessus. Je dirais, alors, les 5721 points, mais en fait, il faut intégrer le gap à la réflexion. Donc, au-dessus des 5680, 5721 points, au-dessus de cette zone-là, la tendance reste haussière. Ensuite, à court terme, le marché peut continuer ses oscillations ici, mais la tendance reste haussière au-dessus de cette zone support. L'invalidation de la hausse, ce serait clairement repasser sous le gap, c'est fini. Repasser sous le gap, eh bien, nous aurions ici déjà trouvé le sommet de la vague 5. Et derrière, ça chuterait ici. Donc, mais tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone, la cible naturelle reste pour le moment les 6000 points sur l'indice S&P 500. Je pense que c'est une cible de fin d'année, pas aujourd'hui ni cette semaine, une cible pour Noël, sachant qu'en plus, pour le S&P 500, il y a une saisonnalité très favorable en novembre-décembre. Bon, ça va aussi, bien sûr, dépendre du résultat des élections présidentielles américaines, mais je ne serais pas surpris que nous voyons le S&P 500 à 6000 points pour les fêtes de fin d'année. Chers amis, merci pour vos likes, merci à ceux qui s'abonnent, j'espère que vous avez passé un bon moment, et voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente semaine.